La cucaracha, la cucaracha.
Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau programme de La Cucaracha qui va s'intéresser aujourd'hui aux assemblées autogérées de voisins. Quand on est arrivé en Argentine il y a quelques mois, on a découvert l'ampleur des luttes qu'on appelle ici socio-ambientales, qui sont des luttes socio-environnementales contre des mines, des barrages, le gaz de schiste ou encore l'épandage de pesticides par avion. Et dans notre découverte de l'Argentine des luttes, on a rencontré donc ces assemblées autogérées de voisins, qui sont des assemblées autonomes, qui ne sont pas liées à des partis politiques ni à des syndicats, et qui sont des assemblées locales qui font force et qui luttent contre des grands projets d'aménagement du territoire, qui sont des projets qui menacent les biens communs, les sous-sols, l'eau, et donc les cultures, et la santé, et souvent les vies des habitants. Alors en se baladant à Mendoza, on a rencontré Lucrecia Wagner, qui est sociologue et qui a fait sa thèse sur les mines à ciel ouvert dans la province de Mendoza.
Et du coup, de cette thèse, elle a tiré un livre qui s'appelle « Conflictos socioambientales » et sur lequel on s'est basé pour faire cette émission. Alors déjà, il faut savoir que la raison pour laquelle explosent ces mouvements sociaux environnementaux en Argentine, c'est que l'économie argentine a depuis des siècles été tournée autour de l'export de produits agricoles vers l'Europe et les États-Unis, et que depuis quelques décennies, ça s'est déplacé, ou en tout cas ça s'ajoute, à un export de produits de l'extraction minière. Alors dans son bouquin, Lucrecia développe plusieurs parties, notamment celle qui nous intéresse, une autour des formes de protestation contre ces projets d'aménagement du territoire, et de ces formes de contestation, celles des assemblées de voisins autogérées. Et elle développe aussi une partie avant ça, où elle remet en contexte un peu l'écologie dans sa dimension historique et internationale. Et alors, dans sa présentation, il y a trois mouvements de l'écologie qui se détachent un peu. Le premier, qui est un mouvement un peu historique, qui date du 19e siècle, c'est un mouvement qu'on pourrait qualifier de conservateur ou de protectionniste, et qui a pour objet de préserver une espèce de nature originelle déconnectée des populations qui l'habitent, en créant des aires naturelles protégées, ce qui fait de la nature un espèce de musée intouchable et qui permet aussi notamment de faire du fric en faisant payer l'entrée à des parcs naturels. Il y a un deuxième mouvement qui est plus récent, qui voit dans la crise environnementale en cours une crise technique et qui veut répondre à ça par une modernisation verte de la production et du capitalisme. Ça se traduit par une espèce d'écologie industrielle et une économie verte, et ça ne remet surtout pas en question la croissance et le modèle économique actuel. Et puis il y a un troisième mouvement qu'elle définit comme l'écologie populaire ou l'écologie des pauvres, et qui, lui, voit dans la crise environnementale le reflet des politiques économiques hégémoniques, du déplacement de l'extraction des ressources, puisque jusque dans les années 80, les mines étaient surtout en Europe, et que depuis l'assèchement des mines en Europe, on est allé extraire des produits miniers dans les pays pauvres, et puis du problème de la gestion des déchets générés par cette extraction-là. C'est un mouvement qui met l'accent sur les impacts sociaux de ce secteur, qui peuvent être les maladies chez les populations environnantes, les malformations congénitales, l'accaparement du territoire, la destruction du lien social, la corruption, etc., etc. Et qui se bat donc contre des projets de mines, de puits pétroliers, de barrages, de déforestation, etc. Et du coup, en Argentine, dans ce mouvement d'écologie populaire, on retrouve différentes formes de lutte, que sont les assemblées socio-environnementales, mais aussi les mouvements de paysans et les luttes des peuples originaires. Et du coup, là, on va s'intéresser aux assemblées de voisins autogérées. Et vous entendrez dans l'émission quelques lectures d'extraits du livre de Lucrecia à ce sujet.
Alors, on voulait quand même définir deux notions qu'elle utilise et qui nous paraissaient importantes d'éclairer. Elle parle des piqueteros. Alors, les piqueteros, on en a pas mal entendu parler à la suite de la crise économique de 2001, enfin, dans ce contexte-là, en Argentine. En fait, c'est un mouvement qui est né dans les années 90. Piqueteros, ça vient de piqueter, barrage. Et c'était à l'époque des travailleurs sans emploi qui protestaient contre les licenciements massifs et les privatisations, dans une échelle d'économie ultra-libérale de l'époque, avec cette pratique-là, du coup, de cortes de ruta, de barrage de route, qui est aujourd'hui une pratique très, très utilisée dans toutes sortes de conflits en Argentine. Et puis la deuxième notion, c'est la notion de fumigation. En français, on pourrait dire épandage, mais seulement la fumigation, c'est de l'épandage par avion. Et donc c'est un peu différent, parce que forcément, un avion qui arrose des champs, il arrose pas uniquement les champs, il arrose aussi les maisons et les villages autour, et donc avec des conséquences sur la santé et parfois la vie de ces habitants-là qui sont à l'orée de ces champs arrosés.
Voilà, et du coup on va écouter Lucrecia dans cette première partie qui nous parle un peu de l'histoire de ces assemblées de voisins autogérées, depuis quand elles existent et puis de qui les compose.
Las asambleas de vecinos autoconvocados nacen en Argentina.
Les assemblées autonomes de voisins naissent en Argentine dans les années 90, au moment du pic néolibéral dans le pays. C'est un moment où l'État se retire de beaucoup de domaines, et notamment des politiques sociales, et donc c'est un moment où la population trouve des manières de s'auto-organiser sous diverses formes.
Empieza más o menos a mediados de los 90 una protesta.
Notamment au milieu des années 90, commence un mouvement de protestation. Donc il y a des mouvements de travailleurs, il y a des mouvements qu'on connaît sous le nom de piqueteros. Au début, on a vu apparaître ça dans la province de Neuquén, et puis ensuite, ça s'est étendu à plusieurs endroits, cette modalité d'action qui est le barrage de route.
Hay diferentes procesos de fábricas recuperadas, que son las fábricas.
Il y a eu aussi plusieurs mouvements de récupération d'usines. En fait, ce sont des usines que les propriétaires quittent et veulent délocaliser, et que les travailleurs et travailleuses reprennent pour les remettre en fonctionnement. Et il y a un autre mouvement qui est la création d'assemblées autonomes de voisins. C'est un mouvement qu'on voit surtout apparaître dans les grandes villes pour résoudre des problèmes de l'ordre de la vie quotidienne. On voit notamment apparaître ça dans plusieurs quartiers de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, dans les grandes villes, quoi. Et l'état d'esprit des assemblées autonomes, c'est de se dire que n'importe quel habitant peut prendre part à des décisions dans un processus horizontal.
Se caracterizan por presencia de docentes, amas de casa, profesores.
En général, la majeure partie des gens viennent de la classe moyenne. On voit beaucoup d'enseignants, de femmes au foyer, de commerçantes, de professeurs d'université, de petits producteurs. À Mendoza, par exemple, les assemblées sont grandement constituées de petits producteurs, des gens qui travaillent en rapport avec la terre. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans des assemblées, par exemple, à Entre Ríos ou à Córdoba.
Esa es la principal conformación, ¿no?
C'est la forme la plus répandue, en fait, de gens qui composent les assemblées. Disons que ce sont des gens qui ont un certain niveau de formation, mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui ont déjà été militants politiquement. C'est justement ce qui est intéressant dans les assemblées, c'est que dans cet espace se rencontrent des gens qui sont militants dans d'autres espaces, dans d'autres mouvements, et qui donc doivent renoncer à certaines habitudes, certaines manies de manière de fonctionner dans ces autres espaces de lutte, avec d'autres personnes qui n'ont jamais participé à des luttes.
Se toman decisiones en común, nadie está por encima del otro, Y también otra característica es una gran desconfianza.
Et ils prennent des décisions ensemble. Personne n'est plus légitime que l'autre. Et il y a autre chose qui rassemble ces gens, c'est une grande méfiance vis-à-vis de la manière de prendre des décisions dans, par exemple, les partis politiques ou les syndicats. D'où l'idée d'être des assemblées autonomes. Donc les gens y vont pour résoudre des problèmes qui les concernent avec leurs voisins.
Ese formato va a ser tomado después. Principalmente à inicios del 2000.
C'est un modèle qui a été repris ensuite, surtout dans les années 2000. C'est une modalité de lutte qui avait déjà été utilisée ponctuellement pour des luttes dans les décennies précédentes, pour lutter notamment contre de l'extractivisme, ce qu'on peut appeler finalement les organisations socio-environnementales.
Quizás el primero, el más conocido, fue la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel.
La première et sans doute la plus connue, c'est l'Assemblée autonome de Esquel. C'est une assemblée qui s'est formée dans la province de Chubut. C'est la première communauté en Argentine qui a lutté contre l'installation d'un projet minier d'extraction d'or. Ils ont mis en place une consultation populaire. Ça a été la seconde mise en place après Tambo Grande en Amérique latine. Et eux, justement, ils ont pris cette forme-là de lutte, avant même que la question environnementale ne se pose, qui est composée, d'une part, des assemblées de voisins autonomes qui existaient déjà avant les luttes socio-environnementales, et à la fois, parce qu'il y avait beaucoup d'enseignants parmi ces gens, qui travaillaient aussi dans cette logique d'assemblée.
C'est un peu l'origine.
C'est un peu ça qui est à l'origine du refus de ce projet minier. Et ça a donné lieu à la naissance d'autres assemblées dans d'autres endroits dans le pays qui refusaient également des projets miniers. Par exemple à Mendoza, dans la Rioja, à Catamarca, à San Juan, à Córdoba, et à d'autres endroits dans le pays, pas forcément contre des projets miniers, mais contre la construction de barrages, contre l'urbanisation, contre des activités polluantes, les effets néfastes de la monoculture, de l'utilisation de pesticides, avec des mouvements comme Paren de Fumigar.
Les assemblées tentent d'incarner la continuité d'un processus de démocratisation de la démocratie, pour la rendre de plus en plus ouverte et légitime, en tentant d'atteindre une démocratie participative. Les assemblées sont parvenues à maintenir un état d'esprit de lutte et ont permis que les personnes qui les composent récupèrent leur qualité de citoyens, puissent discuter de tous les problèmes relatifs à leur existence et se sentent légitimes à assurer une vigilance sur le pouvoir. Elles représentent la mémoire, la discussion, le débat, la transparence et le futur. Elles donnent la possibilité à leurs membres de se questionner et de s'émanciper. Ces assemblées font partie d'un mouvement social plus large, en gestation. Elles sont l'exercice de la démocratie directe, sans médiateur, multiclasse. Elles font partie d'un « nous », dont l'identité se définit comme contestataire. Elles interrogent les structures des partis, des syndicats et de l'État. Elles luttent contre l'injustice et l'oppression et pour une nouvelle société. Ce sont elles qui, de la façon la plus concrète, mettent en lumière l'absence de représentativité des institutions classiques. Elles sont hétérogènes et leur nouveauté réside dans leur horizontalité totale et dans la découverte de l'autre, de son voisin. Les assemblées sont les héritières de la rébellion du peuple argentin contre le régime de concentration et d'exclusion qui a prévalu ces dernières décennies. Elles incarnent le slogan qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans la rue les 19 et 20 décembre 2001, « Qu'ils s'en aillent tous, qu'il n'en reste aucun ».
Il y a des assemblées qui sont plus mixtes que d'autres. Par exemple, à Mendoza, si on analyse un petit peu la composition de l'assemblée, c'est assez équilibré, la présence d'hommes, de femmes, des différentes générations. Et c'est intéressant parce que chaque génération apporte sa propre personnalité, en fait, à l'Assemblée. Par exemple, à San Carlos, ça a été très intéressant parce que la manifestation de San Carlos a été la première manifestation organisée par eux à Mendoza. En fait, ils sont intervenus lors d'un défilé officiel. Le 25 mai, qui est un jour de fête nationale en Argentine. Et ceux qui sont intervenus, qui ont coupé le défilé et qui y sont allés, c'était les jeunes. Et en faisant des entretiens, on s'est rendu compte que les gens plus âgés avaient, si ce n'est une peur, au moins une certaine retenue vis-à-vis de ce genre d'action, parce qu'ils avaient encore le souvenir de la dictature militaire que les jeunes n'avaient pas. Du coup, c'est très intéressant que les assemblées aient des composantes différentes, variées, parce que ça permet ce mélange-là et chacun apporte sa propre couleur à l'assemblée.
Pero si en otros lugares del país hay asambleas que tienen una mayor presencia femenina.
Il y a d'autres assemblées ailleurs dans le pays où il y a par exemple beaucoup de femmes. Par exemple, les assemblées de Famatina et Chilecito, c'est celles qui sont caractérisées par la forte présence de femmes. Mais il y en a d'autres, il y a Antinogasta aussi, où il y a beaucoup de femmes. Antinogasta, c'est intéressant parce que les personnes qui sont allées manifester, c'était des personnes qui étaient des filles, des amies ou des compagnes, des personnes qui avaient été poursuivies en justice pour avoir empêché l'activité minière. Et du coup, elles s'appellent les femmes du silence. Et du coup, elles manifestent habillées de noir, avec la bouche recouverte, pour dénoncer la poursuite en justice de leurs camarades.
Je crois que también hay quizás que pensar en...
Je crois qu'il faut aussi savoir qu'un des grands mouvements sociaux en Argentine, c'est le mouvement des femmes, donc des mères et des grands-mères de la place de Mai. Du coup, la présence féminine dans les mouvements, elle est là, de fait. Et ces dernières années, c'est très intéressant de voir aussi que dans les assemblées ces derniers temps, il y a certaines personnes qui, du coup, prennent ce nom de mère, se font appeler mère. Madres. Et ça, c'est un mouvement qui vient spécifiquement des femmes. Et c'est des mouvements qui ne naissent pas forcément pour lutter contre des atteintes à l'environnement, mais surtout pour lutter contre les effets que ces pollutions peuvent avoir sur leurs enfants.
Il
y a deux exemples assez représentatifs qui sont les mères de Ituzaingó, qui est dans la province de Córdoba. Ituzaingó, en fait, c'est un quartier des faubourgs de Córdoba. Il y a beaucoup d'enfants qui sont tombés malades dans ces quartiers à cause des pesticides et des polluants chimiques qui sont utilisés dans les champs autour du quartier. Il y a un autre cas, ce sont les femmes de Las Torres qui se sont constituées à Buenos Aires, dans le sud de Buenos Aires, avec pour origine des maladies et aussi des personnes qui sont décédées. Ce sont des enfants qui ont été atteints de ces maladies et qui sont décédés à cause de la proximité d'une décharge à ciel ouvert de l'ACAMC, qui est la société de gestion des ordures à Buenos Aires.
Alors en juillet 2006, à Córdoba, suite à l'article d'un journaliste qui appelle à l'articulation des luttes environnementales dans le pays, se crée la UAC, c'est-à-dire la Union de las Asambleas Ciudadanas. Lors de ce rassemblement, on peut voir des assemblées de voisins autogérés, des ONG, des collectifs, des profs, des chercheurs et des chercheuses universitaires, tout ce monde qui lutte contre le pillage et la contamination des ressources, le saccage économique des populations et les menaces sur les peuples minoritaires et les identités locales.
C'est donc un espace d'échange, de discussion et surtout d'action contre différents projets étatiques, de grosses entreprises et contre aussi le traitement des médias hégémoniques de ces projets d'aménagement. Donc ces rencontres, elles se passent plusieurs fois par an sur tout le territoire argentin et elles permettent de visibiliser les luttes. Alors elle a plusieurs axes d'action, ça passe par l'auto-formation et l'appropriation lors de ces rencontres de l'espace public avec des manifs qui laissent la place à de l'expression artistique, des expositions, des conférences de presse, etc. Et donc plus généralement, cet espace il permet donc de créer et de renforcer des solidarités, d'apprendre des savoirs et des expériences des différentes luttes et d'affiner une expertise indépendante sur ces projets d'aménagement.
Et il faut savoir aussi que les participants et participantes de la UAC, et plus largement des assemblées de voisins autogérés, portent une attention particulière à ce que les partis politiques, les syndicats ou les organisations en lien avec l'État ne récupèrent pas ces mouvements-là.
Il y a des gens qui font partie de divers partis politiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'au sein d'une même assemblée, on va rencontrer des gens qui viennent de différents partis politiques et qui donc vont ramener des débats à l'intérieur de l'assemblée. Mais on a toujours été très vigilants sur le fait que ces débats-là ne doivent pas passer devant le débat central. Il y a des gens qui peuvent appartenir à différents partis politiques ou à des syndicats, à des corporations, mais s'ils rejoignent l'Assemblée, c'est parce qu'ils rejoignent cette cause qui est commune à tous les gens de l'Assemblée, et c'est ça qui doit primer sur le reste, et sur le choix de qu'est-ce qui doit passer en priorité. Ces liens-là, ils sont aussi utilisés comme un atout, parce que quand il faut qu'on réfléchisse à la mise en place de mobilisation ou d'autres activités, souvent les partis politiques, les syndicats participent. Mais par exemple, lors des manifestations de l'Union des assemblées autonomes, l'AWAC, on lutte toujours énormément pour que, à l'avant du cortège, se placent les assemblées, et derrière, les banderoles des syndicats, des partis, pour faire primer l'enjeu premier de la lutte en cours. C'est pour ça qu'on va devant. Bien sûr, il y a eu des tentatives de cooptation. Bien sûr, il y a des politiques qui ont obtenu une élection, qui ont gagné une élection, parce qu'ils avaient participé à une lutte. Bon, je ne dis pas que c'est sain ou malsain, que c'est réel ou pas, hein, mais... Par exemple, il y a des politiques qui ont lutté contre l'existence d'un projet minier et qui, après, ont retourné leur veste. Par exemple, des gouverneurs qui ont été élus en disant qu'ils refusaient l'activité minière et puis après, qui donnent leur aval. Par exemple, ça a été le cas dans La Rioja. Mais bon, le but, c'est quand même de réussir à dépasser ces tentatives de cooptation. Mais c'est vrai qu'en général, dans les assemblées, il y a une mobilisation et les partis politiques essayent de rejoindre ça. Par exemple, lors des rencontres de la WAC, il y a toujours des partis politiques qui rôdent autour, qui essayent de rejoindre l'assemblée. C'est un problème récurrent.
Necesitamos que paren de fumigar los cultivos en nuestras narices, con las cuales inhalamos el veneno que nos produce nada más y nada menos que cáncer, malformaciones y abortos, entre otras cosas.
Muchos de estos movimientos, de estas asambleas surgieron.
En fait, la plupart de ces assemblées se sont montées suite à des actions de refus de projets. Et justement, pour tout ce qui concerne la relation et le débat sur la relation avec les gouvernements et les entreprises, en fait, elles se retrouvaient toujours confrontées à la question « d'accord, mais qu'est-ce que vous proposez comme alternative ?» Du coup, elles se sont retrouvées obligées à penser à des alternatives. Et aussi, dans la WAC, et même au niveau provincial ou local, il a commencé à y avoir des liens entre des assemblées qui résistaient à certaines activités et d'autres groupes qui cherchaient plutôt à réfléchir à d'autres manières de construire, de produire. Du coup, ici à Mendoza, ça fait un petit moment que s'est créée une assemblée pour la souveraineté alimentaire, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens pas bien du nom. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine proximité avec tout ce qui est écologie, construction naturelle, permaculture.
Los encuentros de la UAC siempre han estado caracterizados por.
Lors des rencontres de la WAC, il y a toujours présent des collectifs culturels, des gens qui font du théâtre, des murgas. Le côté artistique est toujours très présent parce que c'est vu comme une autre manière de diffuser leur action. Il y a aussi le mouvement paysan indigène qui participe toujours. C'est toujours la même chose, c'est les petits producteurs qui luttent et qui essayent de survivre vis-à-vis des gros producteurs comme Monsanto ou d'autres grosses entreprises en lien avec elles. Donc oui, il y a un lien depuis le départ, parce que justement, au départ, il y a un point commun qui est de défendre nos lieux de vie et comment penser et produire cette vie. Et ces liens se resserrent et sont de plus en plus forts avec le temps, et c'est d'ailleurs ce qu'on recherche.
Actuellement, il existe environ 70 assemblées dans le pays. Un important pourcentage de ces assemblées est né de la lutte contre la mégaminerie. C'est important de souligner aussi que la WAC a favorisé la formation de WAC régionales qui réunit diverses assemblées autour de problématiques spécifiques ou par proximité géographique. En conclusion, il s'agit de la formation d'un mouvement hétérogène qui est parvenu, d'une part, à lier entre elles des luttes historiques avec des conflits plus récents, des communautés indigènes et paysannes avec des assemblées urbaines, et d'autre part, les problématiques du modèle dominant d'exportation du soja avec celle de l'activité minière à grande échelle, présentée comme une alternative à la matrice productive du pays. Ces liens se reflètent dans les réflexions de membres de l'Assemblée d'Esquel qui, plusieurs années après leur entrée en lutte, déclaraient
« Les mines, l'industrie de la pâte de cellulose et du soja, participent au même saccage. Et toutes les provinces habitées par des communautés font partie de la même lutte. Ils veulent construire des barrages qui inonderaient des territoires indigènes et paysans pour fournir de l'énergie au secteur minier. Ils veulent extraire du potassium en contaminant l'environnement pour produire les fertilisants nécessaires à la monoculture du soja et aux agrocarburants. Toutes ces formes de saccage et de contamination sont liées.
Un hombre del pueblo de Nehuá en la costa de Colombia pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fuego.
Fue la primavera. ¿Dónde estará nuestra razón de ser? Pasando mis noches en vela, sintiendo la esencia de saber que estás aquí. ¿Por qué luchar por sus banderas? ¿Por qué pagarle los vicios a un rey? ¿Por qué llenar de su cartera? Mientras el pueblo pasa sin comer. ¡Fuego! Fuego, fuego en la sangre, fuego, fuego en corazón.
Mar de fuego, mar de fuego. Mar de
¿Cuándo vendrá la luna llena? ¿Cuándo será que el mundo gire en paz? Sueña que tienes alas y puedes volar. Vive la vida alegre sin mirar atrás. Vamos subiendo por el monte y vemos la ciudad. Pequeñas llamas que se encienden, otras que se apagan ya. Vamos subiendo por el monte y vemos la ciudad. Pequeñas llamas que se encienden, otras que se apagan ya. ¡Fuego! Es el hombre, fuego, fuego es la mujer, fuego, fuego es la sangre, fuego, fuego el corazón, fuego, 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 fuego.
Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas, algunos fuego. Arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se...
Fuego, fuego es el hombre.
fuego, fuego en la sangre, fuego, fuego en el corazón, fuego, 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 fuego.
En lisant quelques articles et livres sur l'histoire récente de l'Argentine et en regardant ce qui se passe autour de nous, on a découvert qu'il y avait quand même de nombreuses victoires de ces organisations politiques qui réussissent à faire reculer des grands projets de multinationales. C'est assez enthousiasmant. Et là, ce dont va nous parler Lucrecia, c'est d'exemples d'action de ces assemblées autogérées de voisins aujourd'hui en Argentine.
La fiesta de la vendimia es la una fiesta que se hace siempre al inicio del mes de marzo, la nacional, donde se elige a la reina de la vendimia.
La fête des vendanges, c'est une fête qui s'organise au début du mois de mars, la fête nationale où on élit la reine des vendanges. Cette reine est élue parmi les reines des différents départements qui forment Mendoza. Et cette fête comporte différents événements. Le midi du jour où la reine est élue le soir, il y a un grand défilé dans la ville de Mendoza qui s'appelle le Carrousel des vendanges. Et c'est un événement, celui du midi et celui du soir, qui a une portée nationale, qui a beaucoup de répercussions. Il y a beaucoup de journalistes, parce qu'il y a beaucoup de touristes aussi qui viennent, qui sont présents lors de cette fête et lors de ce défilé. Il y a des politiciens qui viennent, des stars connues de la scène argentine et parfois même internationale.
Entonces, bueno, están todos los periodistas,
et du coup, sont présents tous les journalistes, tous les médias. Et donc en 2007, donc on se souvient qu'en 2006 s'est formé l'AMPAP, qui avait rassemblé les différentes assemblées de Mendoza. Et donc ils ont décidé de rendre visibles ces problématiques-là. Et donc il a semblé que c'était une opportunité de pouvoir profiter de la vendemia, de la fête des vendanges. Et donc ça s'est fait pour la première fois en 2007, ce qu'on a appelé le contre-carrousel. Et donc ça s'est appelé le contre-carrousel parce que l'idée c'était de défiler en sens inverse par rapport au carrousel officiel. Et donc de pouvoir profiter du public qui était là, qui était déjà en place pour attendre l'arrivée du carrousel. Et donc ce défilé-là, ce contre-carrousel, aller en sens inverse pour rendre visible la problématique et le refus des méga minerías.
Con los años, este rechazo fue ganando mucha visibilidad en la sociedad mendocina.
Et au fur et à mesure des années, en fait, c'est un problème qui a été très visibilisé et qui a gagné la population de Mendoza. Et du coup, les gens qui participaient à ce contre-carrousel étaient chaque année plus nombreux. Et du coup, au bout d'un moment, il a été décidé qu'il y avait un nombre de gens tellement important qui participaient au contre-carrousel, il a été décidé de défiler dans le même sens que le carrousel. Et c'était aussi pour mettre en relief que le contre-carrousel n'a jamais été là pour empêcher, pour aller à l'encontre du carrousel officiel. Il n'y a jamais eu l'intention de salir ou d'empêcher la venue du carrousel, mais plutôt de faire partie et de visibiliser le problème.
Donc, se decidió marchar en el mismo sentido.
Et donc il a été décidé de défiler dans le même sens que le carrousel, et aussi de poser le problème, la problématique, de manière plus joyeuse, avec de la joie, avec des grandes marionnettes, avec des groupes, avec des murgas, des sicuris, qui participaient aussi à la manifestation, avec plein de couleurs. Il a été fabriqué la marionnette de l'eau, qui est une marionnette qui fait 4 mètres de haut. Il a été fabriqué aussi le roi de la méga minería, le poulpe extractiviste. Et donc il y a beaucoup de collectifs artistiques qui ont participé à la fabrication de ces marionnettes géantes.
Yes.
Et du coup, ça se voit dans les journaux et dans les médias l'Assemblée va faire partie. Et du coup, c'est attendu chaque année. On peut voir dans les médias que ça se sait que les Assemblées vont participer au défilé. Ou défile aussi chaque reine sur son char avec les produits typiques de sa région, de son département. Des communautés qui participent, des gauchos et d'autres spectacles qui se font en fait lors de ce défilé.
Gracias,
La résistance en La Rioja empieza en dos pueblos muy pequeños que son Famatina y Chilecito.
La résistance dans La Rioja est née dans deux petits villages qui s'appellent Famatina et Chilecito, qui se trouvent à côté d'un lieu qui s'appelle El Cerro de Famatina, El Cordón de Famatina. Dans cette zone, fin 19e, il y avait déjà des mines. Donc ça se savait que c'était une zone riche dans les sous-sols et notamment qu'il y avait des gisements d'or. Et ces dernières décennies, on a vu apparaître des multinationales qui étaient intéressées par l'exploitation de ces sous-sols.
Ante eso, la población de Famatina y Chilecito decide formar asambleas.
Et donc, devant ce constat, les habitants ont décidé de former des assemblées, l'assemblée autonome de Famatina et l'assemblée autonome de Chilecito. Et donc, ils ont formé ce qu'ils ont appelé la barrera de la vida, qui est un blocage en fait à l'entrée du gisement. Et du coup, les entreprises se sont retrouvées empêchées d'amener les moyens de production sur le site d'exploration. Et du coup, de cette manière-là, ils ont réussi à faire barrage à 4 entreprises minières. Plus ou moins, c'était entre 2007 et 5 ans plus tard. Ça a été une lutte très longue, très forte, avec beaucoup de familles qui ont participé, beaucoup d'enseignantes, avec une grande partie de femmes dans ces assemblées et dans cette résistance.
Bueno, una de las empresas rechazadas fue Barrick Gold, la gran transnacional del oro canadiense.
Une des entreprises qui a été repoussée, c'était Barrick Gold, la grande multinationale d'exploitation d'or canadienne. Et il y a une autre entreprise minière qui s'appelle Osisco, dont on a découvert qu'ils avaient avec eux ce qu'on appelle en Argentine des listes noires. En fait, il se trouve que le personnel de l'entreprise Osisco était hébergé à Chilecito. Ils avaient une réunion avec d'autres personnes là-bas. Les gens de l'Assemblée sont allés à cet endroit-là, ils leur ont demandé de partir. Et dans le départ précipité, ils ont oublié une chemise. Et quand les gens de l'Assemblée ont ouvert la chemise et ont regardé ce qu'il y avait dedans, ils ont découvert qu'il y avait une liste avec les noms de beaucoup de personnes qui participaient aux assemblées, avec les caractéristiques de ces personnes-là, quelle était l'attitude de telle et telle personne vis-à-vis du projet de mine, si telle personne semblait très difficile à convaincre.
Et bueno, esto en Argentina fue...
Et ça, ça a eu un écho très très fort et ça a été très critiqué en Argentine parce que ça rappelait ce que faisait la dernière dictature militaire à établir des listes pour faire disparaître, entre guillemets, des gens. Et du coup, ça a eu une répercussion nationale et ça a été une nouvelle entreprise empêchée d'agir dans La Rioja.
Et donc c'est des tout petits villages en fait entre des...
Oui, tout petits parce que je ne me souviens pas du nombre exact, mais je ne sais même pas s'ils atteignent les 10 000 habitants. En plus, c'est des villages qui sont très éloignés de la capitale provinciale. C'est un endroit où vivent beaucoup de petits producteurs, où la défense de l'eau est une question centrale. Et l'emblème de cette région-là, c'est « On ne touche pas à Famatina », qui est le nom du mont. Il y a une grande production de musique, de chansons. Il y a un des membres de l'Assemblée qui a fait des chansons justement au blocage. Et du coup, il a sorti un CD où il y a des musiques qui sont dédicacées à ses camarades. C'est vraiment très chouette. Et donc c'est une zone avec un sentiment d'appartenance très fort au territoire vers Famatina et Chilecito.
Y acá estamos en las distintas asambleas de Famatina, Chilecito, Capital, Chañarmullo y Pituil, luchando con todo el dolor del mundo, gritando que nuestros gobernantes nos traicionan de una forma tan cobarde, diciendo que acá ellos van a hacer con la minería lo que ellos quieran. Y acá estamos nosotros para defender nuestras montañas, nuestras vidas y nuestro futuro. Acá estamos, estamos juntos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. Acá estamos, estamos juntos. Y acá seguiremos estando siempre luchando para cuidar nuestra tierra. Acá estamos, cada vez más fuertes. No estamos solos, cada vez más grandes. Cada vez más, cada vez más. Acá estamos. No estamos solos. Estamos juntos. Nosotros, la cordillera, estamos juntos. Todos los países del tercer mundo que se están defendiendo de esta gran traición, no estamos solos. De esta entrega y de este saqueo que nos proponen. No estamos solos. Estamos juntos. No estamos solos. Estamos juntos. Y vamos a seguir estando. Y vamos a seguir estando.
Las asambleas creo que han sido un actor inesperado en el juego político y que justamente los sectores de gobierno y los sectores empresariales han desestimado su poder.
Pris part de manière surprenante en fait au jeu politique et notamment surprenante pour les politiciens et le secteur empresarial. Et donc les assemblées ont été des adversaires de taille. Elles ont empêché des projets et avec des stratégies très différentes. Parce que, et ça c'est très intéressant, chaque assemblée s'adapte au contexte dans lequel elle a à lutter. Par exemple, à Mendoza, les institutions environnementales sont très respectées. Et du coup, les assemblées sortent, font partie, prennent part aux décisions formelles, réclament qu'on fasse des études d'impact environnementaux, participent aux audiences publiques, ou participent des différents espaces où se discutent les projets. Dans d'autres provinces, il y a une telle méfiance vis-à-vis de ces espaces qui sont déjà très corrompus. Et du coup, elles se retrouvent à directement entrer dans la lutte contre les projets parce que le dialogue n'est pas possible. Et du coup, je crois que ça a été une des grandes expériences et expérimentations des assemblées, c'est cette capacité à s'adapter à ce qui était important dans chaque lieu. Avec des stratégies complètement différentes, comme participer aux décisions formelles, ou faire des interventions artistiques, faire des blocages de route, et aussi l'organisation en commun entre assemblées a permis de faire certaines actions conjointes. Par exemple, dans la Cordillère, ils ont fait un blocage interprovinces. Et c'est très intéressant, parce que par exemple, si une entreprise minière veut faire parvenir ses moyens de production à l'endroit du gisement, sur le site de production. Une fois, il y a eu un blocage comme ça à La Lumbrero, qui a été la première grande mine à ciel ouvert à Catamarca. Et du coup, ils n'ont pu passer par aucun endroit, parce que dans les différents points d'accès, en fait, les populations s'étaient organisées et les assemblées pour couper les routes. Et du coup, ces interactions entre assemblées ont permis de mettre en place de nouvelles stratégies. Ou alors se mettre ensemble pour mettre en place des pétitions, pour mettre en place des législations au niveau national, comme par exemple la loi des glaciers, ou d'autres projets, comme dans certaines provinces il en existe, de limiter ou interdire l'activité minière.
Comme qu'ils ont savu aprovechar ese abanico desde lo legal.
Donc ça peut passer par des voies légales, participer à des processus administratifs, occuper la rue, faire des interventions dans les écoles, faire des liens avec d'autres secteurs, par exemple avec l'agroécologie, avec des corporations, avec des syndicats, avec des frottements, mais avec pour but d'atteindre un objectif commun.
C'est une réussite et une satisfaction de voir des scènes de lutte comme celles qui ont lieu dans les provinces de San Juan, Catamarca, Córdoba et Rio Negro ou Santa Cruz. Aujourd'hui, le secteur minier est remis en question. Que ça plaise ou non au secteur privé et aux politiciens, une prise de conscience a vu le jour dans les communautés. Elle ne s'arrête plus. Toutes ces luttes montrent qu'il y a une conscience collective à propos de la possibilité d'y prendre part activement. Elle montre que nous avons du pouvoir face à ces types assis derrière un bureau au Canada, aux États-Unis ou en Europe qui veulent décider de notre avenir. Nous avons conscience de pouvoir mener et gagner des combats et nous le confirmons à travers chaque mouvement naissant, chaque assemblée et chaque blocage de route.
En rencontrant Lucrecia et toutes ces assemblées en lutte, on a été complètement bluffés par la force de frappe qu'elles ont, parce qu'à une dizaine de personnes, elles réussissent parfois à empêcher des multinationales d'exploiter des sous-sols. Et ça, grâce à des modalités de lutte qui sont assez inspirantes, de barrages de route ou de coordination entre assemblées qui permettent réellement de mener un combat et de le gagner.
Et c'est là-dessus qu'on va terminer. L'extrait qu'on a entendu là juste avant, il était comme tous les autres issus du livre du Lucrecia. Et celui-là particulièrement, c'était le témoignage d'un membre de l'Assemblée d'Esquel, donc une des premières luttes contre l'extractivisme en Argentine. Faut savoir aussi que les luttes socio-environnementales ont notamment, en 2011, obtenu le vote d'une loi. Après beaucoup d'allègements de la part de l'Assemblée, c'était sous le gouvernement de Cristina Kirchner, social-démocrate. Mais cette loi est quand même passée, et elle s'appelle la loi des glaciers. C'est une loi qui protège les glaciers donc, et les zones périglaciaires, donc autour des glaciers, dans la cordillère des Andes. Parce que, notamment, ces glaciers sont une ressource hydraulique stratégique pour l'Argentine, dans un pays qui, parfois, peut manquer d'eau. Alors, cette loi, elle a empêché pas mal de multinationales de s'implanter et d'exploiter les sous-sols de la cordillère. Quand même, l'État, depuis le début de cette loi, que ce soit sous Kirchner ou sous Macri aujourd'hui, a toujours rechigné à l'appliquer complètement, puisque, par exemple, elle ne donne pas les fonds aux organismes pour établir l'inventaire des glaciers, ce qui permettrait de pouvoir appliquer pleinement la loi.
Ouais, et même plus que de l'empêcher par manque de fonds, etc., elle veut carrément la vider de sa substance. Et dans l'actualité brûlante, là, en mars, il y a eu un discours du gouvernement et du secrétaire délégué aux mines en Argentine de volonté d'ouvrir aux investisseurs ces zones périglaciaires pour que les entreprises et les multinationales puissent exploiter ces zones périglaciaires. Du coup, le combat continue.
Et le combat continue notamment sur ce thème de l'extractivisme qui est central ici puisque c'est un des points centraux du capitalisme en Amérique latine et du coup en Argentine. Et du coup, bah, on fera une émission sur le sujet plus complète prochainement. Et puis bah, d'ici là, suerte et à la
prochaine. Ciao, hasta luego, ciao. Salut. De este proyecto. Somos los que estamos sufriendo. Somos los que estamos sufriendo. Desde arriba, los congresistas, el presidente, todos lo ven muy bello. Sufriendo.